Bon, je vais vous faire un petit topo. Ce matin, avant de partir, j'ai pris quelques notes qui me sont venues, des réflexions sur la question sexuelle. Évidemment, ça ne fera peut-être pas le tour de la question, mais c'est juste ce qui m'est venu ce matin. Il faudrait relire des bouquins là-dessus, etc. Bon, ça peut nous donner matière à réflexion. Donc, je vais vous faire un petit topo et puis vous verrez si ça répond à vos questions. Bon, la sexualité humaine, c'est quand même très compliqué. Très compliqué parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent là-dedans. Il y a d'abord des problèmes de fond qui sont liés en particulier à deux choses, et je vais bien entendu détailler tout ça ensuite au fur et à mesure. Problèmes de fond qui sont liés d'une part au poids des fantasmes originaires et d'autre part à l'absence d'œstrus, à l'absence de chaleur chez la femelle humaine. Et ça, c'est pas simple à gérer. Premièrement, problème de fond. Deuxièmement, des problèmes plus individuels. Œstrus. Oestrus, ça veut dire les périodes de chaleur. Chez les femelles mammifères, l'œstrus, c'est la période de chaleur. La femelle mammifère, quand elle est en chaleur, elle peut être couverte par le mâle. Mais si elle est un peu en chaleur, le mâle, il peut toujours s'accrocher. Il n'est pas question de s'approcher de quoi que ce soit. Alors qu'il n'y a pas de période de chaleur délimitée d'éclair chez la femelle mammifère humaine. Et donc, il y a une disponibilité sexuelle permanente qui pose une question. Donc, problème de fond, fantasme originaire et absence d'œstrus. Problème plus individuel, fantasme personnel et gestion des pulsions partielles. Et problème de genre, les différences entre les hommes et les femmes. Alors revenons sur chacun de ces points. Les fantasmes originaires. Les fantasmes originaires sont principalement au nombre de trois. Et on pourrait dire que c'est quelque chose qui existe chez tous les êtres humains. On ne sait pas si c'est génétique ou pas, en tout cas ça se retrouve chez tous les êtres humains, qui sont les fantasmes de séduction, de castration et de scène primitive. Le fantasme de séduction, c'est j'ai été séduit, égal abusé, par un parent. Le fantasme de castration, c'est s'il y a une différence entre les garçons et les filles, c'est parce que les filles ont été châtrées et qu'à la place du pénis, elles ont un trou, une absence de pénis. Et le fantasme de scène primitive, c'est d'avoir vu les parents en train de faire l'amour, mais en réalité, ça peut très bien être d'avoir vu des animaux en train de copuler, et d'en avoir déduit, d'après l'action, l'intensité de l'action, le mouvement, les bruits, d'en avoir déduit que le mâle faisait du mal à la femelle, d'avoir un fantasme de coït sadique. Donc ces trois fantasmes originaires, séduction, castration, et scène primitive, avec le coït sadique qui va avec, vont singulièrement compliquer les choses, puisqu'ils sont tous imprégnés du sentiment de viol et de brutalité. Hein? Autrement dit, il y a quelque chose qui va être délicat à gérer, pour ça déjà, et ensuite pour plein d'autres éléments qu'on va voir tout à l'heure, il y a quelque chose qui va être délicat à gérer, c'est l'alliance intime entre l'excitation érotique et le désir d'être avec l'autre, et de faire l'amour avec l'autre, et la trace de fantasme originaire inquiétant. Le fantasme de séduction, en somme, c'est la séduction incestuelle. C'est j'ai été abusé. Que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Et en fait, c'est lié aux soins du corps. C'est-à-dire que le bébé, le parent, le soigne, le touche, le nettoie. Quelque part, il y a une espèce de ce que Jean Laplanche appelle la séduction généralisée, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a quelque chose comme une espèce d'emprise sur le corps du bébé, sur son sexe aussi, hein, quand on va nettoyer le sexe de l'enfant ou des choses comme ça. Et donc, c'est pas étonnant du coup si il y a chez tout le monde quelque part, le fait que l'intimité corporelle, l'intimité sexuelle, réveille une menace d'emprise. ou réveille une menace d'abus. Les deux sexes ont peur de l'emprise par l'autre, soit d'être violemment pénétré, soit d'être capturé, captivé, dévoré. Les deux sexes ont peur de l'autre. Et évidemment, cette menace d'emprise va exiger un certain nombre de stratégies pour pouvoir ne pas être paralysé par ça. On va voir un peu plus loin après comment on peut faire avec ça. Le fantasme de castration, c'est l'explication que se font les enfants, qu'ils soient garçons ou filles, pour la différence des sexes. Et donc, il y a quelque chose au niveau du sexe féminin, ouvert, troué, qui pose une vraie énigme que l'enfant résout en disant, voilà, s'il y a un manque à cet endroit-là, c'est qu'il y a eu une castration. Et alors du coup, ça peut donner pour les femmes une certaine honte de cette zone-là, plus que de la poitrine, qui elle, au contraire, est quelque chose qui se voit et qui sort du corps. Tandis qu'il peut y avoir une certaine honte de cette zone-là, la pudeur traditionnelle féminine, qui est en fait une certaine honte. Honte comme si on avait un manque là, quelque chose qui soit une sorte de signification de la castration. Et pour le garçon, face à cette zone-là, face au sexe féminin, la peur d'être soi-même menacé de castration. Même chose, on verra tout à l'heure comment ça exige un certain nombre de comportements pour dépasser cette honte ou cette peur. La scène primitive et le coït sadique est liée à l'observation de la différence entre l'activité et la passivité. Le fait que si je vois des chiens en train de copuler, eh bien il y en a un qui s'active et l'autre qui reste immobile. Il y a quelque chose qui est comme une sorte de décodage par le psychisme infantile, comme quoi le mâle fait mal à la femelle. Et donc il va découler de ce fantasme de scène primitive et de coït sadique, il va découler la peur pour les hommes d'être sadiques et pour les femmes d'être maso. Et là aussi on verra comment ça se gère. Donc chacun de ces fantasmes originaires pose un problème qu'il va falloir résoudre pour pouvoir avoir une sexualité qui ne soit pas perturbée par ça. L'absence de strus, l'absence de chaleur chez la femelle humaine, vient encore augmenter cette idée du risque de viol, puisque finalement, il y a une sorte de disposition sexuelle permanente, et il n'y a pas une sécurité forte, comme chez les animaux. En dehors des chaleurs, une femelle, il n'y a pas moyen de véritablement, pour le mâle, de s'en approcher. Hein. Alors que là, ce n'est pas le cas, du point de vue humain. Quand est-ce qu'il y a viol ? Il y a viol quand il y a une conjonction entre une pression pulsionnelle interne forte chez l'homme et un abaissement des normes, un abaissement de la loi. Par exemple, quand il y a un abaissement du surmoi, du fait d'être en groupe, on sait que le groupe abaisse le surmoi puisque ça devient un surmoi collectif, ou bien du fait de l'alcool, de la drogue, ou bien du fait d'un surmoi mal constitué, par exemple si on a affaire à quelqu'un de pervers, ou bien d'un surmoi mal constitué du fait que, par exemple, on est encore dans l'adolescence pour un garçon. Classiquement, à l'armée, par exemple, quand il y a des viols collectifs et que le viol est utilisé comme une arme de guerre, l'encadrement s'efforce de faire monter la pression pulsionnelle, pas de femme, pas de sortie, une espèce d'agressivité intense, et ensuite une autorisation, même une pression pour que les soldats puissent violer les femmes de l'ennemi. Eh bien, même un homme qui normalement est relativement bien constitué et a un surmoi fort risque d'être pris par le collectif et l'abaissement de la loi extérieure. Cette réalité du risque de viol va donner une fascination pour les faits divers qui parlent de viol. Donc, DSK, n'est-ce pas ? Et aussi, tous ces faits divers, pourquoi ils vont avoir tellement d'importance? Parce qu'ils viennent confirmer à l'extérieur le fantasme. Le fantasme de coït sadique, le fantasme d'emprise, le fantasme d'abus, le fantasme à la limite de castration. Ils viennent le confirmer à l'extérieur et donc ils peuvent donner pour les femmes la rage d'être si menacées et pour les hommes la culpabilité d'être virtuellement des violeurs. Donc, ce qui apparaît, c'est que, indépendamment déjà de toute autre chose personnelle, il y a quelque chose qui est comme un espèce de problème de fond qu'on a tous à gérer. C'est-à-dire le poids des fantasmes originaires et la difficulté spécifique du fait qu'il n'y a pas de chaleur comme période délimitée chez la femelle humaine. Alors, comment est-ce que ça va se goupiller? Ben, face au risque de menace d'emprise par l'autre, on tombe sur l'idée que toute relation sexuelle suppose une certaine peur et qu'il va y avoir deux possibilités par rapport à la menace d'emprise, ou s'approcher progressivement l'un de l'autre, les préliminaires, etc., qui abaissent la peur et qui montrent qu'on est dans une relation de bienveillance mutuelle et d'amour, donc ou la nécessité des préliminaires. Ou quelquefois, quand on saute dessus violemment et avec plaisir, l'érotisation de la peur. Un peu comme si ça devenait une espèce de truc source d'érotisme. Donc, la nécessité des préliminaires ou l'érotisation d'une espèce de surchauffe mutuelle sont deux façons de gérer le fantasme originaire de séduction. Le fantasme originaire de castration est la honte chez la femme ou la peur chez l'homme vont être compensés par le plaisir de se montrer et d'être vue belle et désirable, y compris au niveau de son sexe. Et donc la honte va pouvoir être remplacée par l'exhibition, ou plus exactement par l'érotisation du regard de l'autre. Et la peur devant cette différence des sexes et devant ce sexe de femme chez l'homme, la peur va être remplacée par le voyeurisme. C'est-à-dire, d'une certaine manière, voir le sexe de la femme ouvert, ça peut être quelque chose qui fait peur à l'homme et qui est remplacé par un contre-investissement, c'est-à-dire qu'au contraire, ça l'excite. Ça lui donne le sentiment de maîtriser sa peur par l'érotisation voyeuriste. Il y a eu tout un tas de textes de Freud et d'autres sur le fétichisme et sur d'autres perversions qui disent qu'en fait, le fond du fond de pas mal de perversions, c'est justement de s'empêcher de reconnaître la différence des sexes et de s'empêcher de gérer le fantasme de castration en niant la castration, entre guillemets, féminine, quoi. Par exemple, l'importance du fétiche, du petit objet dont on a besoin pour pouvoir être excité ou jouir, c'est justement comme une espèce de symbole qui rassure sur le fait qu'il n'y a pas eu de castration. D'où l'intérêt pour les petites culottes, ou pour des choses de cet ordre, ou pour les chaussures, qui sont comme des symboles péniens. Les petites culottes, c'est plutôt le dernier truc avant de voir l'horreur de la castration. Et par exemple, le pied ou la chaussure, c'est un symbole de pénis féminin. On peut se demander, c'est un peu bizarre, quoi, pourquoi être obsédé par les chaussures ou par je ne sais quoi, et en avoir absolument besoin pour pouvoir jouir. Et en fait, c'est justement parce que ça vient gérer une question concernant la peur liée à l'imaginaire de la castration devant le sexe féminin. Donc ça, c'est pour le fantasme de castration, hein, et donc qui est compensé, contre-investi par des plaisirs exhibitionnistes et voyeuristes. Et puis la question du fantasme de scène primitive et de coït sadique, qui va affronter à la peur d'être sadique ou d'être masochiste, va se régler par deux choses. D'une part, l'érotisation de ce désir sadique ou de ce désir masochiste. Et d'autre part, l'amour pour l'autre, qui garantit qu'on n'est pas en train de lui faire du mal. Et l'amour pour l'autre, la plupart du temps, se symbolise et est rassuré et est confirmé dans sa non-mauvaiseté par le fait que l'autre ait du plaisir. D'où l'importance pour certains ou pour certaines que l'autre ait absolument du plaisir. Parce que si elle n'a pas de plaisir, à ce moment-là, je ne peux pas me rassurer sur le fait que je n'ai pas été sadique ou violeur dans ma pression pulsionnelle agressive qui est nécessaire pour que je puisse pénétrer. Donc il y a quelque chose qui est compensé, qui contient le fantasme de sadisme ou de masochisme par la tendresse, l'échange mutuel, le fait que l'autre a du plaisir et que du coup, c'est une garantie qu'on n'a pas été mauvais, destructeur ou des choses comme ça. Alors ça, c'est une des premières choses qu'il s'agit de gérer, c'est-à-dire le poids des fantasmes originaires. Et comme vous le voyez, ce qui est difficile, qui est présent chez tout le monde, c'est la question du viol. Puisque finalement, tous ces fantasmes tournent autour de cette question de faire mal à l'autre ou que l'autre nous fasse mal. Ça veut dire qu'on va être affronté pour pouvoir faire l'amour correctement, en étant bien, que ce soit un bon moment, à la nécessité de transformer le fantasme de viol en un échange qui soit garanti, comme quoi ça n'est pas du viol. Et là où ça complique singulièrement les choses, c'est quand il y a eu effectivement un abus sexuel ou un viol dans l'enfance ou dans l'adolescence. Puisqu'à ce moment-là, c'est comme si la réalité était venue confirmer le fantasme. Et du coup, ça complique terriblement, puisque finalement, la réalité est venue me confirmer le fantasme qui est à la base même de tout un tas d'autres fantasmes. Et donc, c'est presque impossible. Enfin, c'est presque impossible, on y arrive, hein. Mais c'est très difficile de gérer ça, puisque j'ai été abusé ou violé, et que donc ça confirme le fantasme. Et inversement, pour un homme, c'est très compliqué de gérer ces fantasmes de viol qui sont source d'excitation, sans qu'il se sente coupable ou susceptible de devoir être mis au pilori, quoi. Donc il y a un certain nombre de fantasmes à l'adolescence, du plaisir de violer ou du plaisir d'être violé, qui sont légitimes, qui ne sont pas graves, qui sont normaux d'une certaine manière, puisque c'est tenter de gérer la question des fantasmes originaires en les érotisant, mais qui peuvent être source de malaise ou de culpabilité. Premier niveau, le poids des fantasmes originaires et la difficulté liée à l'absence d'œstrus. Deuxième niveau, le poids des problèmes plus individuels, c'est-à-dire que pour chacun, il y a d'une part les fantasmes personnels qui sont liés à des décodages infantiles de traumatismes ayant pour origine des fixations, c'est-à-dire que le psychisme infantile, confronté à un certain nombre d'excitations partielles ou de situations traumatiques externes, va être fracturé plus ou moins et va devoir lier ça par un fantasme. Et ça va devenir une sorte de fixation obsédante. Mettons, je dors dans la chambre de mes parents jusqu'à un âge avancé, je les vois faire l'amour, je les regarde en douce, je les aperçois en train de faire l'amour, etc. Il y a une violence de la situation qui devient traumatique pour mon psychisme infantile qui a de la difficulté à décoder ça. Et cette violence de la situation va faire une fixation. Je vais tenter de régler cette fixation par l'érotisation de la répétition de la situation. Donc par exemple, ça va donner à l'âge adulte la nécessité quasi, la pression très forte pour voir un couple faire l'amour. Et qu'il n'y a que ça qui m'excite, ou que c'est ça qui m'excite prioritairement. Donc peut-être que je vais demander à ma femme de coucher avec mon copain, parce que du coup c'est là où je vais être super excité, parce qu'en fait je remets en scène la situation traumatique, mais en l'érotisant. Mais du coup, j'en suis prisonnier, comme toute situation traumatique. Ce qui fait qu'un certain nombre de fantasmes adultes, sources d'excitation, sont en réalité des situations qui ont été traumatiques pour le psychisme infantile et que le fantasme adulte essaye d'érotiser. Mais en même temps, du coup, ça devient une sorte de répétition et de fixation. J'ai absolument besoin de ça pour vraiment que ça devienne excitant, pour vraiment que j'ai du plaisir sexuel. Et en réalité, ce qui me paraît être le plus source de plaisir sexuel extraordinaire, en réalité, c'est une fixation dont je n'arrive pas à me débarrasser. C'est un traumatisme que je n'arrive pas à régler, la plupart du temps. Hein? Si je suis obsédé de voir le sexe de la femme, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui a été précocement affronté à ça, chez ma sœur ou autre, et que vraiment, il y a quelque chose en moi qui a été tellement choqué à ce moment-là que je dois sans arrêt revenir sur le traumatisme pour l'érotiser, pour essayer de le lier. Mais en réalité, ça devient une sorte d'obsession qui limite l'autre à être le support du fantasme et donc d'une certaine manière à être l'objet partiel qui va être à la limite interchangeable. Parce que si c'est telle chose du corps de l'autre qui m'excite parce que ça met en scène tel fantasme traumatique, ben, presque peu importe quel que soit l'autre. Hein. Et là, on tombe sur l'autre chose qui est la gestion des pulsions partielles. Puisqu'on a tous commencé, étant enfant, par des excitations locales du corps, avant que ça devienne plus global. Donc, toutes les zones trouées du corps sont source de fixations érotiques possibles. La bouche, les yeux, le nez, les oreilles, l'anus, le vagin, tous les trous du corps. Alors, pourquoi est-ce que les trous du corps sont source d'érotisation ? Peut-être parce que c'est à cet endroit-là que se situe vraiment le choc entre la réalité extérieure et la réalité intérieure. Enfin bref, ce qu'on peut dire, c'est que tous les trous du corps vont être source d'érotisation possible. Voir, écouter certaines choses, sentir, point de vue olfactif, l'anus, l'excitation anale, etc. Bon, bien entendu, on tombe sur le thème « l'enfant pervers polymorphe hein. ». Ça veut dire qu'on a tous aussi ces pulsions partielles à gérer. Gérer, ça veut dire que c'est intéressant de les avoir pour mettre en route l'excitation globale, mais en même temps, c'est problématique s'il y a trop de fixation sur telle zone. Parce qu'à ce moment-là, on retombe sur la question de l'objet partiel. Or, l'objet partiel, c'est jamais une source de pleine satisfaction. C'est-à-dire, ça peut donner du plaisir sexuel, mais ce n'est pas véritablement un échange avec une personne totale qui va être pleinement satisfaisant, quoi. Donc, vous voyez qu'après les problèmes de fond concernant les fantasmes originaires et la question de l'absence de chaleur chez la femelle, on a les questions plus individuelles qui sont les fantasmes personnels liés à tel et tel traumatisme et la gestion des pulsions partielles. Comme quoi, ce n'est pas simple, quoi. Et troisième point, il y a les différences hommes-femmes, en plus, histoire de compliquer un peu encore. Alors, bien entendu, différences hormonales, on n'a pas les mêmes rythmes hormonaux. Pour l'homme, il y a quelque chose qui est plus constant, une espèce de niveau de testostérone constant tout au long de sa vie, quasiment, et qui donc le met avec une espèce de pression sexuelle constante, alors que pour la femme, c'est beaucoup plus varié au point de vue hormonal, hein. Et puis il y a une différence homme-femme d'investissement du corps. Pour la femme, il y a un investissement du corps entier, du fait du déplacement au moment du fantasme de castration d'avoir été châtré, il y a un déplacement de l'investissement clitoridien sur l'ensemble du corps, c'est-à-dire que la petite fille va devenir coquette, intéressée d'avoir tout son corps comme une sorte d'érection globale du phallus à défaut d'avoir un pénis ou un phallus imaginaire. Donc l'investissement total du corps chez la femme n'est pas le même chez l'homme. Chez l'homme, il y a beaucoup plus un investissement du pénis et des zones sexuelles, quoi. Ben ça fait aussi une différence dans la manière de commencer l'érotisation mutuelle au moment de faire l'amour. Pour la femme, ben vous connaissez la question du double déplacement qui a été nécessaire à effectuer, de passer de la mère au père. Déplacement de l'objet d'amour et déplacement de l'investissement sexuel qui va devoir se faire en particulier à l'adolescence, du clitoris au vagin, c'est-à-dire que les deux doivent être investis pour que ça soit plus satisfaisant. Bon, je ne reviendrai pas plus longuement sur les différences hommes-femmes, mais chacun sait que du coup ça crée des différences de rythme, des différences de rythme dans le désir et qu'il va falloir s'adapter à ça, ce qui n'est pas forcément facile. Et qui en plus est compliqué quand on vit ensemble, par d'autres points, comme les conflits à propos de la belle-mère, à propos de l'argent, à propos des enfants ou je ne sais quoi, qui eux-mêmes vont encore venir être une sorte de parasitage de la possibilité de relations sexuelles pleinement satisfaisantes, encore que quelquefois ça soit un peu séparé et qu'on peut se réconcilier sur l'oreiller. Alors, en résumé, on pourrait dire que parmi les solutions qu'on adopte et qui expliquent un certain nombre de comportements sexuels, parmi les solutions, il y a érotiser ce qui fait peur, le sadisme, le masochisme, les traumas. Il y a contre-investir la violence par la tendresse et l'amour. Et l'amour suppose une certaine identification à l'autre, parce qu'on peut aimer que quelqu'un auquel on peut au moins en partie s'identifier. Donc l'amour suppose une certaine aisance avec sa propre féminité pour les hommes et avec sa propre masculinité pour les femmes. Ne serait-ce que pour pouvoir à peu près comprendre comment fonctionne l'autre, quoi. Et aussi s'identifier à l'autre, c'est-à-dire, il y a eu tout un tas d'écrits intéressants par des psychanalystes femmes sur la question du dedans, quoi, hein, du dedans et du dehors. Et en particulier, ce dedans féminin si énigmatique pour l'homme, ça peut être aussi un dedans qu'il s'agit de protéger et d'éviter d'abîmer, lui-même projetant son dedans sur le dedans féminin. Donc l'amour est une question aussi liée à l'identification, mais contre-investir la violence par la tendresse et l'amour, c'est assez compliqué parce qu'en même temps, il ne faut pas la faire disparaître, cette violence. Parce que cette violence pulsionnelle, elle est nécessaire. Ça va ensemble, les pulsions agressives et sexuelles sont reliées. La pulsion sexuelle a besoin d'un support de pulsion agressive pour oser aller au contact, quoi. Donc si on était que dans la tendresse, etc., à la limite, ça pourrait faire disparaître la pulsion sexuelle par trop peu d'agressivité, trop peu de violence, trop peu de désir de saisir l'autre, de le posséder, qui est valable pour les deux sexes. Donc on a quelque chose de délicat, c'est qu'il s'agit de contre-investir la violence par la tendresse et l'amour sans pour autant la faire disparaître, parce qu'elle porte la pulsion. Première solution, érotiser ce qui fait peur. Deuxième solution, contre-investir la violence. Troisième solution, s'assurer du plaisir de l'autre comme réassurance. Et là, on a toujours la même chose, c'est-à-dire que si on veut se sentir bon et non destructeur, il faut que l'autre puisse nous montrer qu'on a été bon et non destructeur. Et si on prend son plaisir uniquement sans du tout tenir compte de l'autre, mettons quand on va voir une prostituée ou autre, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est à nouveau et encore comme une sorte de pulsion partielle. Quelque part, c'est comme un viol autorisé, un viol légal, pas trop compliqué, quoi, etc. Mais en même temps, c'est pas très satisfaisant. Et puis, la dernière solution qui est nécessaire et qui a été bien mise en exergue par Freud, c'est de faire passer les pulsions partielles sous le primat du génital. Ce qui se dirait maintenant en termes plus contemporains, intégrer les pulsions partielles et les parties du corps de l'autre ou de son propre corps qui nous excitent en tant que pulsion partielle, l'intégrer dans une relation avec une personne totale qu'on aime et qu'on apprécie. Voilà, bon, en gros ce que j'avais noté ce matin en y réfléchissant pour venir pour en parler aujourd'hui. Peut-être ça mérite beaucoup plus de détails, évidemment. Peut-être il y a plein d'autres choses qui seraient à creuser. C'est presque plus une sorte de façon de lancer la discussion que de thème définitif. OK ? Voilà.